Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Intégral Sport sur RMC. On est ensemble en direct pendant une heure. Tour d'horizon de l'actualité sportive du jour. Vous en avez l'habitude. Au programme aujourd'hui, le PSG sur le terrain. Premier match de préparation pour le club parisien et son nouvel entraîneur Christophe Galtier. On sera en direct avec Nicolas Pelletier dans un instant. Toute l'actu du Mercato parce que ça bouge au PSG justement. Mais pas que, les dernières infos avec Timothée Mémon. Retour également sur la victoire des Bleus à l'Euro hier face à la Belgique. On vous donnera malheureusement la mauvaise nouvelle du jour. Marie-Antoinette Katoto, forfait pour le reste de la compétition. Avant de retrouver l'after tour, on fera un point avec Cyril Guimard sur l'étape du jour. Elle a été remportée par Mats Pedersen en costaud. Vingegaard, son compatriote, toujours en jaune. Le début des mondiaux d'athlétisme, ça démarre ce soir à Eugene aux États-Unis. On vous mettra un petit peu l'eau à la bouche grâce à notre envoyé spécial Aurélien Tersin. Et puis TJ Parker, le coach de l'ASVEL, sera avec nous en fin d'émission. Il nous racontera son expérience d'assistant coach en Summer League. Ça se passe à Las Vegas où les équipes de NBA préparent leurs plus jeunes joueurs à la prochaine saison. Voilà le programme. On est ensemble jusqu'à 19h. L'Intégral Sport démarre tout de suite sur RMC. C'est la première pour Christophe Galtier. Après 10 jours de préparation, le PSG dispute aujourd'hui face à Quevilly son premier match amical. Ça se passe au Camp des Loges, à huis clos. Et même Nicolas Pelletier n'a pas réussi à se faufiler au bord du terrain. Salut Nicolas.
Salut Simon, salut à tous.
Nicolas, tu n'es pas le seul à avoir été empêché de suivre cette rencontre. Il y a des gens qui avaient fait le déplacement pourtant.
Oui, avec quelques jeunes supporters, souvent des familles qui étaient venues ici aux abords du Camp des Loges, pensant pouvoir accéder à ce stade. Et en fait, pas du tout. C'était un huis clos total. Même les journalistes n'ont pas le droit d'entrer dans le Camp des Loges pour cette première rencontre de l'ère Galtier face à QRM, une équipe de Ligue 2.
Nico, le match débutait à 17h. Est-ce que tu as quand même réussi à suivre un petit peu le déroulé de la première période? Est-ce que le PSG se promène face à cette équipe de Quevilly, sauvée in extremis, on le rappelle, en Ligue 2 la saison dernière?
Alors on va préciser que Quevilly s'entraîne depuis plus longtemps que le PSG, donc plus en forme avant d'arriver sur ce match-là. Le PSG qui mène 1-0 pour le moment avec un but de Sergio Ramos sur penalty. C'est très difficile en fait de voir le match même sur les téléphones, les tablettes et tout, parce qu'il faut avoir un compte abonné au Paris Saint-Germain. Donc en fait c'est très difficile de suivre cette rencontre. Alors, et on arrive à suivre quand même Vitinha qui est bien en jambes dans cette première période. Mais voilà, c'est plutôt face à une équipe de QRM qui ferme un peu le jeu, mais c'est plutôt pas mal pour un premier match. Et c'est toujours très difficile de juger un premier match, surtout sous cette chaleur-là, après seulement deux semaines de reprise.
On sait, Nicolas, que le niveau de préparation des joueurs n'est pas homogène. Tout le monde n'est pas rentré en même temps de vacances. Quelle est l'équipe qui a débuté le match et dans quel schéma?
Alors, je vais te donner la composition, après on verra le schéma. Donnarumma dans le but, Diallo, Ramos, Marquinhos, Bernat, Paredes, Dina Ebimbe, Vitinha et devant Kalimuendo, Icardi et Messi. C'est un schéma en 3-5-2 en fait. On l'a su depuis plusieurs semaines que Christophe Galtier veut mettre trois défenseurs en défense au Paris Saint-Germain. C'est en 3-5-2 avec Bernat et Dina Ebimbe en rôle de piston et un Messi un peu plus positionné derrière le duo Icardi-Kalimuendo. Voilà, c'est la première composition, mais ça change beaucoup. Il va avoir beaucoup de turnover pendant cette rencontre car c'est quand même une rencontre amicale et ça permet une revue d'effectifs complètes.
On sait que Mbappé, Neymar, Kimpembe notamment doivent rester.
Tous. Alors Neymar qui est venu, qui est passé ici au Camp des Loges tout à l'heure, on l'a vu repartir dans sa grosse voiture il y a quelques minutes. Il est resté aux soins, mais ça ne remet pas en cause sa tournée au Japon. On sait que Mbappé et les autres internationaux comme Verratti, Kimpembe ou encore Hakimi ne sont pas présents dans ce groupe pour affronter QRM car ils ont repris plus tard. Ils étaient avec leur sélection au mois de juin, donc c'est la raison de leur absence. Et donc on attend tous aussi ce groupe parisien pour cette tournée au Japon dans les prochains jours.
Alors justement, on va y aller par étapes. Suite de la préparation pour le PSG après cette rencontre, c'est ce départ en stage au Japon.
C'est ça, on doit normalement connaître dans les prochaines heures, normalement le groupe qui va partir au Japon. On dit que ça va être un groupe restreint pour le Paris Saint-Germain, contrairement aux autres années où c'était un groupe très large avec les autres entraîneurs. Christophe Galtier voudrait un groupe restreint pour cette première tournée. Le PSG qui va partir demain après-midi au Japon, qui jouera trois matchs amicaux sur place, avec bien évidemment dans l'objectif de se préparer pour le 31 juillet, le trophée des champions à Tel Aviv en Israël face au FC Nantes, le vainqueur de la Coupe de France. C'est l'objectif principal et ça sera le premier match officiel de l'ère Galtier au Paris Saint-Germain.
Merci beaucoup Nicolas, on te libère.
Merci à vous.
J'espère que tu vas réussir à glisser un œil pour pouvoir suivre la fin de cette
roue.
Mais t'es un filou, on te connaît, tu vas réussir à déjouer la sécurité. Petite pensée pour les supporters parisiens, tu le rappelais, qui ont fait le déplacement.
Il y a un très gros dispositif de sécurité autour du camp des loges.
Oui, hein, ce serait dommage quand même de laisser les supporters apercevoir leur joueur favori. C'est quand même un match de la plus haute importance. Bref,
c'est ça.
Merci beaucoup Nico pour toutes ces ciao. Infos. À très vite sur RMC. On rappelle le PSG qui va disputer donc 3 matchs amicaux. Ça va parler aux amateurs de championnat japonais. Le Kawasaki Frontal, c'est mercredi. Les Urawa Red Diamonds, c'est samedi. Et le Gamba Osaka, le lundi 25 juillet. Nico le rappelait, première rencontre officielle. Le trophée des champions face au FC Nantes à Tel Aviv le 31 juillet. Et puis la reprise de la Ligue 1, ce sera du côté de Clermont le 6 août. Voilà, il est 18h06. Vous êtes bien sur RMC Intégral Sport jusqu'à 19h. Je vous rappelle que c'est Mats Pedersen qui a remporté la 13e étape du Tour de France. Il s'est imposé en costaud à Saint-Etienne. Jonas Vingegaard, son compatriote danois, conserve le maillot jaune after tour à partir de 19h autour de Christophe Cessieux avec toute la Dream Team. Mais pour l'instant, vous le savez, c'est notre page foot, c'est l'heure de faire un point Mercato.
RMC, le Mercato Show.
Et le Mercato Show, c'est avec Timothée Mémon de la rédaction foot de RMC. Salut Tim.
Salut à tous.
Alors Timothée, on parlait du PSG à l'instant, ça bouge un petit peu niveau Mercato, ça chauffe pour un joueur de Ligue 1.
Ouais, j'ai pas mal de biscuits pour vous aujourd'hui, c'est même brûlant pour Ekitike, le jeune franco-camerounais de 20 ans, de confrère de l'équipe, avance que le joueur passe sa visite médicale et qu'il devrait signer à Paris, qui versera à Reims 36 millions d'euros, bonus compris. Ekitike s'engagera pour 5 ans, Hugo Ekitike, il avait impressionné la saison dernière en inscrivant 10 buts en 24 matchs. C'est surtout un jeune à fort potentiel et c'est ce potentiel qui a tapé dans l'œil du Paris Saint-Germain. Alors il sera peut-être pas amené à être titulaire immédiatement, notamment dans l'attaque XXL du Paris Saint-Germain, mais il pourrait rentrer dans la rotation mise en place par Christophe Galtier.
Oui, les dirigeants rémois qui disaient que finalement PSG s'est aligné sur la proposition de Newcastle. Effectivement, on peut comprendre le choix du joueur peut-être.
Il y a eu un point important dans le choix du joueur, c'est que c'est un fan absolu de Kylian Mbappé et qu'il rêvait probablement de jouer avec Kylian Mbappé. Il aura l'occasion de le faire, même si pour le coup, leurs profils sont d'une certaine manière un peu similaires et qu'Ekitike vient probablement pour jouer soit sur le côté gauche, soit sur le front, sur l'avant de l'attaque du Paris Saint-Germain. Ça rappelle un profil.
Et comme le temps passe vite, Kylian Mbappé qui est déjà l'idole de certains jeunes prometteurs de Ligue 1. À l'étranger, des nouvelles de Bob Lewandowski?
Oui, du coup, à l'étranger, ça impacte un peu le Paris Saint-Germain puisqu'on l'avait dit un petit peu pressenti au PSG. On disait en tout cas que le PSG était en embuscade pour tenter sa chance pour faire venir le Polonais s'il ne trouvait pas d'accord avec Barcelone. Finalement, le club catalan et le Bayern se seraient entendus autour de 50 millions d'euros. C'est ce que souhaitait le Bayern. Après une saison de transition, le Barça frappe fort en recrutant Robert Lewandowski et le Barça semble déterminé à relancer une dynamique qui s'était un peu rompue, il est vrai, avec le départ de Léo Messi.
Oui, on avait presque oublié que le Polonais reste un redoutable attaquant. Tout de même, superbe recrue pour le FC Barcelone. Des arrivées donc à Paris, un départ également
possible, ça n'est pas encore acté mais c'est probable. Abdou Diallo pourrait rejoindre Naples, alors on verra rapidement s'il est dans le groupe pour partir au Japon et pour affronter le Kawasaki Frontal, tu le disais, troisième du dernier championnat, c'est important de le rappeler. En tout cas, Abdou Diallo pourrait rejoindre Naples, le défenseur sénégalais a été érigé en priorité par le club de la Campanie. Après le départ de Koulibaly à Chelsea, le SSC devrait compenser ce départ par Abdou Diallo, qui a beaucoup joué à Paris sans jamais véritablement convaincre.
Ouais, c'est vrai qu'il était arrivé avec un statut de défenseur très prometteur du Borussia Dortmund et n'a jamais vraiment confirmé tous les espoirs placés en lui par le club parisien. Des nouvelles du côté de l'OM.
Oui, orphelin de Saliba, l'Olympique de Marseille cherche un défenseur. Saliba qui est retourné à Arsenal pour le moment. L'OM avait un sérieux chantier donc en défense. Samuel Gigot du Spartak Moscou avait signé en janvier. Mais l'OM pourrait également signer un autre décès. Il s'agit de Chancel Mbemba. Il s'agit d'un défenseur international congolais qui sort de 4 saisons avec le FC Porto. Il avait d'ailleurs affronté l'OM en phase de groupe de l'édition 2020-2021 de la Ligue des Champions. Ça avait tourné très largement en faveur des Portugais à l'aller et au retour. Son coéquipier et capitaine en sélection, Marcel Tisserand, que j'ai contacté cet après-midi, me l'a décrit comme un défenseur puissant, bon de la tête, très sérieux, notamment dans son placement. Mbemba a le mérite d'être libre de tout contrat. Il a joué 31 matchs la saison dernière en championnat avec Porto. 5 matchs de Ligue des Champions, 26 matchs au total, donc c'est une grosse expérience européenne. Et il a 27 ans.
Lui aussi, il intéressait l'Olympique de Marseille, mais pas que.
C'est Jonathan Clauss. Oui. Après une saison brillante à Lens, après avoir connu ses premières sélections en bleu, Clauss attise l'intérêt de nombreuses écuries, tu l'as dit, et c'est le cas notamment en Première Ligue. Pas n'importe qui, c'est Manchester United qui suivrait de près le dossier Clauss, selon une information du Evening Standard. Il lui reste une année de contrat avec Lens, un transfert qui pourrait potentiellement rapporter au sang et or entre 12 et 16 millions d'euros.
On sait qu'à ce prix-là, ça paraît un petit peu cher pour les finances de l'Olympique de Marseille. Rennes qui pourrait finaliser un défenseur.
Oui, c'est Kim Min-jae. Rennes va enfin tenir une recrue tant attendue en défense centrale, selon des informations notamment de Sky Sport Italia. Le club breton est en voie de recruter le sud-coréen Kim Min-jae en provenance de Fenerbahçe. Le club breton a activé cette piste depuis longtemps, mais a dû composer avec une grosse concurrence, celle de Naples. On en parlait il y a quelques instants, en quête d'un renfort. Bon dans l'anticipation, très complet. Il a notamment joué en Chine sous les ordres de Bruno Genesio.
Tiens, tiens. Et oui, c'est bien de recruter des joueurs qu'on connaît un petit peu. Et puis lui, il va conserver son poste sur le banc.
Oui, c'est Irles. Il sera bien l'entraîneur de Troyes la saison prochaine. Depuis quelques heures, des rumeurs fleurissaient, enflaient sur un possible départ de Bruno Irles de l'Estac. Quelques mois après son arrivée, la direction troyenne a confirmé à RMC Sport que ces rumeurs sont fausses. Les dirigeants rappellent que c'est le coach de l'Estac pour la saison qui vient et qu'ils souhaitent continuer avec lui. Pour rappel, Troyes avait terminé 15e du dernier championnat la saison dernière en limogeant en cours de route Laurent Batles. C'est vrai qu'Irles ne fait peut-être pas totalement l'unanimité dans le vestiaire troyen, mais il impose des méthodes et vraisemblablement ça convient à la direction, même si on sait que le fonctionnement de Troyes est parfois un peu nébuleux du fait de la présence de Citigroup au-dessus de tout cela.
Merci beaucoup Thibauté, c'était le Mercato Show du jour. Toutes les infos évidemment que vous pouvez retrouver sur le site rmcsport.fr et toutes les infos effectivement dès que l'excellente rédaction d'investigation RMC Sport en a à vous donner. Tu peux rester avec nous Thibauté si tu le souhaites, parce que on va accueillir qui on va accueillir d'abord, c'est Luc ou Choukri? Luc qui a fait le 32-16. Salut Luc.
Salut Luc. À tous.
Supporter parisien, alors tu viens d'entendre les dernières infos mercato données par Thibauté sur quelle info te fait réagir et qui se rapproche du club par exemple, c'est quelque chose qui te plaît toi?
Non. Moi j'étais déjà intervenu sur le débat pour réagir à la signature de Vitinha et je reste sur la même lignée, c'est-à-dire que pour l'instant j'ai très peur. Je le redis, hein, j'ai très peur pour la saison qui arrive pour Paris. Parce qu'encore une fois, pour moi, on met pas le doigt sur les vrais problèmes. Je l'ai déjà dit. Pour moi, recruter des joueurs supplémentaires, qui que ce soit, hein, ça veut dire, en gros, enfin, pour moi, ça veut dire que on estime que le problème est un problème qualitatif. D'accord? Or, pour moi, la signature de Ekitike, bon, c'est un très bon joueur en devenir. Un très bon jeune joueur, Renato Sanchez, c'est un très bon joueur aussi, hein. Vitinha, pareil. Mais pour moi, je le répète, tactiquement, c'est un non-sens par rapport à l'effectif qu'on a. Tactiquement, c'est un non-sens. Et je voudrais juste prendre un exemple, l'exemple d'un club qui est peut-être la plus grande référence au monde et qui nous a éliminé cette année, c'est le Real Madrid. Ancelotti a communiqué il y a pas longtemps, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, en disant que Tchouaméni serait la seule recrue cette saison et que le mercato était fini pour eux. On voit la différence en fait entre la gestion d'un effectif d'un club historique, très grand club comme le Real Madrid, et celui du PSG. On voit la sérénité d'un côté et la panique de l'autre. Le Real Madrid de Zidane n'a pas recruté pendant quasiment 2 ans. Ça ne les a pas empêchés de gagner avec des champions. À un moment, il faut qu'on comprenne à Paris que la route du succès, c'est la continuité. C'est la continuité. C'est pas changer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on va bien voir, mais moi personnellement, je suis pessimiste. Parce que faut se rendre compte que on a été jusqu'à recruter Messi. On a recruté Messi. Au bout d'un moment, faut se dire que voilà, moi si à 3 ans on me disait ouais dans 2 ans Paris tu verras, vous allez recruter Messi, je dirais t'es fou. On a fait Neymar, Mbappé et on a fait Messi. Qui on va recruter qui encore? Qui on va recruter pour se rendre compte que le problème c'est pas un problème d'effectif.
Timothée voulait te répondre, non, Luc.
C'est vrai que j'étais un peu interpellé par la première partie de ton exposition qui était brillante dans son ensemble en disant c'est un peu normal que le Real change pas grand chose, c'est une équipe qui gagne et la coutume veut qu'on change pas une équipe qui gagne. Par contre, je te rejoins sur la fin de ton exposé sur le fait que effectivement la continuité est peut-être importante. Je sais pas si tu as vu la première mi-temps du match face à certes Quevilly, mais j'ai trouvé que Vitinha était plus qu'intéressant dans cet entrejeu. Voilà. La question que j'ai, j'en ai deux pour toi Luc. La première, c'est est-ce que c'est pas aussi un problème de caractère? Est-ce qu'il faut pas aussi prendre des joueurs non pas pour leur qualité technique comme Ekitike, comme Vitinha, mais pour leur leadership, même si Sergio Ramos va apporter cela s'il revient libéré de ses blessures. Puis la deuxième question que je voulais te poser, c'est sur Abdou Diallo. Je voulais savoir un peu le bilan que tu faisais s'il devait partir. Toi en tant que supporter, qu'est-ce que tu retiendras d'Abdou Diallo?
Pour répondre à la première question, moi je pense que le problème, pour moi, c'est pas un problème de caractère. J'irais plus que c'est un problème d'identité. Mmh. Voilà. Plus d'identité que de caractère. Parce qu'on l'a vu, hein. On a recruté, ce que j'ai parlé de Messi, de Mbappé, de Neymar. On a recruté Buffon. Une légende. On a recruté Buffon. Et Buffon s'est troué. Il est rentré dans le navire parisien. Il a sombré avec tout le monde. Donc pour moi, c'est plus une question d'identité. Et par rapport à Abdou Diallo, pour moi, c'est une énorme bêtise. On sait que ce garçon-là, il a d'énormes qualités, mais à un moment, quand on met pas un joueur en confiance et quand on le sous-valorise, et ben il voilà, on peut pas s'attendre à ce qu'il donne le meilleur de lui-même. Et je dirais la même chose pour Wijnaldum, parce qu'encore une fois, Wijnaldum, je suis désolé, hein, mais là on est en train de le traiter comme si c'était un moins que rien. Wijnaldum, c'est 3-4 ans au très très haut niveau, hein, avant qu'il arrive à Paris. Hein. Donc au bout d'un moment, lui aussi, il a le droit de s'adapter et je pense qu'il avait le droit à une chance. Je rajoute juste une dernière chose par rapport à Vitinha. Je critique pas le niveau de Vitinha. On me parlait de Vitinha par rapport à l'avenir, par rapport au fait que Verratti serait pas éternel ou quoi. Je suis désolé, mais encore une fois, on a montré qu'à Paris, on avait de très très bons jeunes joueurs. On pouvait former des futurs internationaux. Là, on a un joueur comme Ayman Kari qui est très très bon. Moi, je préfère qu'on lui donne sa chance à lui. On a un phénomène et je pèse mes mots. Un phénomène, Warren Zaïre-Emery. Lui, je préfère qu'on donne sa chance à lui, qu'on le fasse jouer, qu'on lui donne du temps de jeu, plutôt qu'on recrute des jeunes joueurs étrangers, aussi bons soient-ils. Mais nous, on a aussi bons, voire meilleurs dans notre centre de formation. On l'a montré. Donc pourquoi ne pas attendre vers ça? Moi, c'est ce que je ne comprends pas avec mon club. C'est ce que je ne comprends pas et ce que je ne comprendrai jamais.
Voilà. Bon. Merci beaucoup Luc, en tout cas Luc qui a l'air d'être un fin connaisseur du football et des joueurs.
Bon orateur.
Oui, excellent. Bon, on aurait pu le rétorquer tout de même qu'au Real Madrid, c'est vrai qu'on change pas une équipe qui gagne. Quand t'as Casemiro, Kroos et Modric titulaires, tu peux te permettre de faire des vagues.
Et derrière, il y a Kamavinga
d'ajustement. Et voilà,
un joueur
à la fois. Et dans la série, on ne change pas une équipe qui gagne. On vient d'apprendre que Riyad Mahrez prolonge son contrat du côté de Manchester City jusqu'en 2025. Là aussi, on sécurise ses talents du côté de Manchester City. Merci Luc d'avoir fait le 32-16. Merci Timothée d'être venu nous donner les dernières infos Mercato. À très vite sur RMC. Vous restez bien avec nous. L'Intégral Sport se poursuit jusqu'à 19h. Vous retrouverez alors l'After Tour avec Christophe Cessieux. Mais dans un instant, on va filer en Angleterre pour revenir sur la deuxième victoire en deux matchs des Bleus de Corinne Diacre hier 2-1 face à la Belgique. Les Bleus d'ores et déjà qualifiés, assurés de finir première de leur groupe, mais privés de leur meilleure attaquante. On en parle dans un instant avec Anthony Reich, notre envoyé spécial. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport. Simon Dutin.
18h21, vous êtes bien sûr RMC Intégral Sport jusqu'à 19h avant de retrouver l'After Tour en compagnie de Christophe Cessieux et toute la Dream Team Vélo. On déroule en attendant notre page foot direction la perfide Albion où l'équipe de France féminine dispute l'Euro de football. Une victoire 2-1 hier face à la Belgique qui qualifie les Bleus pour les quarts de finale. Assurés de terminer première du groupe D, les joueuses de Corinne Diacre voient tout de même leur chance de victoire finale compromise par une bien mauvaise nouvelle. Elle a été officialisée cet après-midi. On va retrouver tout de suite Anthony Reich, notre envoyé spécial en Angleterre. Good evening, Anthony.
Good afternoon.
Ou afternoon.
Bonsoir à tous.
Et oui, il est une heure de moins, c'est vrai, chez toi.
Oui, il est encore un peu tôt.
Anthony, je le disais, la mauvaise nouvelle, c'est que l'équipe de France va devoir se débrouiller sans l'une de ses stars.
Et oui, c'est le coup dur de ce début d'Euro pour l'équipe de France, puisque l'attaquante star Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante du Paris Saint-Germain, déclare forfait pour cet Euro. L'inquiétude montait ces dernières heures. Elle passait une IRM à la mi-journée et les résultats ont été sans appel, puisqu'ils ont confirmé une entorse du genou droit avec lésion du ligament croisé antérieur et aussi le ménisque fissuré. Elle serait indisponible au moins pour 6 mois. Donc c'est aussi un coup dur pour le Paris Saint-Germain, mais en premier lieu évidemment pour l'équipe de France, puisque c'était l'attaquante et une des joueuses les plus attendues de cet Euro, capable de faire la différence, capable aussi de peut-être amener l'équipe de France vers les sommets. Elle avait bien débuté sa compétition avec un but lors du match inaugural face à l'Italie, et puis il y a eu cette blessure et ce changement lors de la première période hier soir face à la Belgique. Tout d'abord, hier soir, les premiers examens faits par le staff médical étaient plutôt rassurants, on va dire, mais c'est vrai qu'il a fallu attendre quand même un examen complet, une IRM, pour voir l'ampleur de la blessure. Et elle s'est présentée sur le terrain là pour la séance qui a démarré depuis une petite vingtaine de minutes, le décrassage de l'équipe de France féminine qui se déroule devant mes yeux. Et il y a eu un échange très long de 5 à 6 minutes entre Marie-Antoinette Katoto, sur des béquilles, avec une énorme attelle au niveau du genou droit, et Corinne Diacre, la sélectionneur de l'équipe de France. On imagine qu'elles ont peut-être refait l'histoire. En tout cas, c'est un gros coup dur qui a mis un coup de massue, clairement, sur la tête des joueuses de l'équipe de France ces dernières heures.
Alors, une bonne nouvelle, s'il faut en trouver une, Anthony, c'est que Corinne Diacre va pouvoir faire souffler ses autres cadres, puisqu'on le rappelle, les Bleus sont assurés de finir première de leur groupe, quel que soit le résultat du match de lundi face à l'Islande.
Oui, tout à fait. C'était la bonne nouvelle d'hier soir, évidemment. Comme tu le disais, Simon, il y a cette qualification en poche, la première place assurée. Et donc, ce qui était prévu avant le scénario un peu catastrophe d'hier soir et cette blessure de Marie-Antoinette Katoto, c'était par le staff de faire tourner à la marge sur ce troisième match, peut-être 4, voire 5 éléments. Mais là, il va falloir revoir les plans, clairement, au niveau tactique. Comment l'équipe de France va jouer sans Marie-Antoinette Katoto? Ça va peut-être être un laboratoire, justement, ce dernier match face à l'Islande, pour trouver un nouveau schéma tactique. On pense peut-être à Khadija Toudiani, l'ailière droite du Paris Saint-Germain, qui avait joué et dépanné déjà dans l'axe lors de la Coupe du Monde 2019. Elle pourrait peut-être prendre la place de Katoto, et puis peut-être une Clara Matteo qui pourrait avoir une carte à jouer au niveau offensif. En tout cas, les cartes sont largement rebattues et beaucoup de questions vont être posées sur la table pour le staff de l'équipe de France dans les prochaines heures.
Du coup, tu le disais, ça jette évidemment ça a mis un coup un petit peu sur la tête des joueuses. Toi qui es au contact de ce groupe France là au quotidien, tu les sens capables de relever la tête? Il y a quand même au Laker tout de même, il y a des sourires ou c'est quand même beaucoup d'abattement. Qu'est-ce qui prédomine?
Non, maintenant là, quand elles sont arrivées sur le terrain, on a entendu des éclats de rire. Elles ont appris la nouvelle dans l'après-midi, en début d'après-midi. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut continuer. C'était un peu le mot d'ordre des dernières dizaines de minutes. Continuer de la route, puisque la route continue. Il faut aller chercher cet objectif qui est revendiqué depuis des semaines, c'est-à-dire la finale et ce titre le 31 juillet. Et maintenant, c'est l'union sacrée qui doit continuer, même si l'arme principale offensive n'est plus là. Il va falloir trouver des solutions pour tenter de continuer la route et d'aller plus loin que ce fameux plafond de verre des quarts de finale. Il y avait des sourires et aussi beaucoup de concentration déjà, et une projection vers ce troisième match de poule face à l'Islande. Et
effectivement, un troisième match qui sera peut-être, en tout cas en termes tactiques, plus important que ce qu'il aurait dû être, puisqu'il va falloir effectivement travailler un système sans Marie-Antoinette Katoto. On rappelle, troisième match dans ce groupe D face à l'Islande lundi. Merci beaucoup Anthony, à très vite.
Avec plaisir,
sur l'antenne de RMC, Anthony qui est notre envoyé spécial du côté de l'Euro féminin en Angleterre, Euro qui se poursuit ce soir avec au programme le troisième match du groupe A, Irlande du Nord, Angleterre déjà qualifiée, et puis la rencontre entre l'Autriche et la Norvège qui sont à la lutte pour la deuxième place qualificative. En attendant, je vous signale que le Paris Saint-Germain mène 2-0 désormais pour Quevilly, le PSG qui dispute son premier match de préparation estivale face à Quevilly. C'est au Camp des Loges, 7-8 clos. C'est Sergio Ramos qui avait inscrit sur pénalty le premier but. C'est Gassama qui a donné un deuxième but d'avance aux joueurs parisiens, les joueurs parisiens qui vont s'envoler demain pour le Japon où ils disputeront trois rencontres amicales. Vous restez bien avec nous, l'Intégral Sport revient dans un instant. Il sera temps de retourner par la route du Tour où Cyril Guimard nous attend. C'est Mads Pedersen, un costaud, mais encore un Danois, qui a remporté cette 13e étape. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport, Simon Dutin.
18h31, c'est le retour de l'Intégral Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 19h. On vient de faire une demi-heure de foot. Vous savez évidemment qu'à partir de 20h, vous retrouverez l'after autour de Nicolas Jamin. Et à 19h, évidemment, l'after tour autour de Christophe Cessieux. Et ça tombe bien, on va se donner un avant-goût de ce qui vous attend d'ici 30 minutes. Cette 13e étape aujourd'hui, le Bourdoisan Saint-Etienne, c'est Mads Pedersen, le coureur danois de l'équipe Trek-Segafredo, qui s'est imposé au bout des 192,6 km. Troisième victoire danoise, hein, tout de même, dans cette édition 2022. Jonas Vingegaard conserve son maillot jaune. On va retrouver tout de suite Cyril Guimard, alias le druide, membre de la Dream Team RMC. Salut Cyril.
Oui, salut, bonsoir à tous.
Cyril, après les Alpes, cette étape était faite bon, soit pour les sprinteurs, soit pour les rouleurs les plus costauds. Au final, les échappés ont résisté au retour du peloton.
Oui, les échappés ont eu la chance de pouvoir effectivement se disputer la victoire ici à Saint-Étienne, parce que vous savez, dans une course de vélo, il se passe toujours quelque chose et pas obligatoirement les choses que l'on attend. Et puis, alors que la poursuite était bien lancée par le peloton avec l'équipe Lotto, l'équipe de Caleb Ewan, qui avait réussi à passer toutes les difficultés, donc on pouvait imaginer que ça allait revenir tranquillement sur les échappés et assister à un sprint ici à Saint-Etienne, avec la victoire de Caleb Ewan, ou d'un autre bien sûr, puisqu'il y avait aussi d'autres sprinters qui étaient encore présents, même si un certain nombre avait déjà sauté. Et puis, la chute de Caleb Ewan fait que le peloton s'est relevé, les lotos bien sûr ont arrêté de rouler, ont attendu Caleb Ewan, tout ça. Et puis là, l'écart est remonté à plus de 3 minutes. Donc à partir du moment où l'écart à une vingtaine de kilomètres était de plus de 3 minutes, eh bien on savait que l'échappée allait aller à son terme. Et puis, il y avait un Danois dans cette affaire, pas n'importe lequel, ex-champion du monde en 99, eh bien qui a, avec beaucoup d'autorité, assuré cette victoire dans un premier temps en faisant exploser. Alors tenez-vous du peu, Filippo Ganna,
c'est ça, Cyril,
Stéphane Kung, ouais. Jorgensen et seul Wright et Hull, le Canadien, ont réussi à l'accompagner. Et puis au sprint, ça a été une formalité. Mais un très beau vainqueur, et puis, c'est quand même que la troisième victoire des Danois.
C'est ça, oui, effectivement, il fait bon miser sur les Danois dans ce tour. On rappelle Kort Nielsen, Vingegaard et désormais Mads Pedersen. Je reviens sur ce que tu disais, Cyril. Si le peloton n'est peut-être pas à rentrer, alors il y a les circonstances de course dont tu parlais, mais c'est qu'on avait quand même devant ce qui se fait de mieux dans le peloton, oui. les plus gros rouleurs, les costauds. C'est quand on voit la composition de l'échappée, on se dit que Pedersen était vraiment dans une forme exceptionnelle, parce que tu le disais, pour piéger Ganna et Kung dans le final, il faut quand même être dans une forme exceptionnelle.
Il l'est depuis le départ. Il est passé à côté sur un certain nombre d'étapes. Il est sorti, il a dû sortir 4 ou 5 fois sur des échappées. Ça s'est mal goupillé. Ça revenait, ça ressortait parce que, des fois pendant 50, 60 kilomètres, ça ferraillait pour prendre la bonne étape. Lui, la bonne échappée. Et lui, il était dans tous les coups. Et puis, le dernier coup qui partait, il était pas dedans. Et là, aujourd'hui, il a pas raté le coup. Et comme il a pas raté le coup, il s'est pas raté non plus à l'arrivée. Et puis, pour terminer sur les Danois, c'est quand même eux qui, pour l'instant, ont les clés du camion, puisque le maillot jaune est également danois.
Et oui, Jonas Vingegaard, évidemment, toujours en jaune. Demain, Cyril Saint-Etienne demande, que te dit ta boule de cristal, encore des baroudeurs à la fête?
Alors, ma boule de cristal me dit, d'abord, dans un premier temps, il y a le parcours, qui est un parcours très difficile, même s'il n'y a pas de grand col. C'est un parcours absolument dantesque, dans la mesure où vous n'avez pas de plat, vous avez des côtes, des descentes, sur des routes, sur des sortes de tortillards, avec du bitume qui ne rend pas. Et puis, du bitume qui rend pas, mais on va sans doute avoir demain les plus grosses chaleurs depuis le départ de ce Tour de France, puisqu'on va atteindre les 40, peut-être même monter au-dessus des 40 degrés, ce qui veut dire qu'on peut assister demain effectivement, au-delà d'une échappée avec des baroudeurs qui pourraient rallier l'arrivée et se disputer la gagne, mais on peut aussi avoir demain deux choses. Des costauds qui se retrouvent avec de grosses défaillances liées à la chaleur et à la fatigue résiduelle. Et puis, on pourrait aussi avoir, dans la montée Jalabert, des Bandrilles, de Pogacar, qui pourraient tenter de reprendre quelques poignées de secondes à Vingegaard. Ça n'est pas exclu. Je pense de toute façon que si Pogacar est bien, il tentera. Si Vingegaard est bien et qu'il sent que Pogacar ne l'est pas, c'est lui qui passera à l'offensive.
Oh là là, tu nous mets l'eau à la bouche, on a hâte.
On en aura besoin d'eau demain. Les coureurs surtout.
Évidemment, Saint-Étienne Mende, cette 14e étape qu'on suivra évidemment. Et avant ça, évidemment, Cyril, on te retrouve tout à l'heure à partir de 19h dans l'After Tour autour de Christophe Cessieux, Pierre-Yves Leroux, Jérôme Coppel, toutes les réactions des coureurs. Au micro d'Arnaud Souk. Et là, autour de Johan Bredov, tu seras obligé de te mouiller un petit peu plus. Tu nous donneras, évidemment, comme chaque soir, ton pronostic pour le vainqueur d'étape demain. Merci beaucoup, Cyril.
Ça ne sera pas simple. Ah, on va commencer à travailler.
Hein. Oui, ben, on compte sur vous, les pronostics de la Dream Team, tout à l'heure dans l'After Tour. Merci beaucoup, Cyril. Et à tout à l'heure sur l'antenne de RMC. Vous restez bien avec nous. L'Intégral Sport se poursuit dans un instant. On va enfiler les pointes et on va partir dans l'Oregon. Ah ben, on va y partir tout de suite, alors, puisqu'il nous attend, Aurélien Tiercin. C'est l'un des événements de l'été, ces championnats du monde d'athlétisme. C'est une Madeleine de Proust pour tous les amoureux de sport. Les mondiaux d'athlètes en été, ça démarre aujourd'hui pour la première fois. Alors ça, j'ai appris ça en préparant l'émission. Ils ont lieu de l'histoire, première fois de l'histoire, ils ont lieu aux États-Unis. Étonnant un petit peu quand on connaît l'excellence de l'oncle Sam en matière de track and field. À Eugene, donc, dans l'Oregon, où je vous le disais, nous attend Aurélien Tiercin, les yeux, les oreilles et surtout la voix de RMC jusqu'au 24 juillet prochain. Salut Aurélien.
Salut à tous.
Aurélien, ça démarre aujourd'hui, donc ce soir, pour nous, décalage horaire oblige. Par quoi ça commence là, on est impatients. Quel est le programme du jour?
On a déjà du marteau pour commencer avec deux Français. Yann Chaussinant, qui est un petit peu moins connu que son collègue Quentin Bigot. Quentin Bigot, vice-champion du monde en 2019. Donc Yann Chaussinant, qui lui fait partie du groupe A, c'est parti depuis ce matin. Il a déjà lancé deux tentatives avec pour l'instant un meilleur G à 73,95 m. C'est un petit peu court pour l'instant pour espérer se qualifier en finale. La finale qui aura lieu demain soir, heure française, puisqu'il faut lancer au moins 77,50 m. Quant à Quentin Bigot, qui est une des meilleures chances de médaille française, il attaque tout à l'heure dans le groupe B, 19h30, heure française. Quentin Bigot, qui est donc vice-champion du monde en titre. Il l'a été à Doha en 2019. Et cette année, il a amélioré deux fois son record personnel au-delà de la barre mythique des 80 mètres au lancer du marteau. Alors forcément, on écoute Quentin Bigot. Il a de grandes ambitions pour ses mondiaux à Eugene.
On a tout fait pour lancer plus loin cette année et ça a fonctionné puisque j'ai dépassé la ligne des 80 mètres. Après, rien n'est gagné. 80 mètres 55 qui est mon record au jeu, j'aurais terminé quatrième. Le niveau est très haut, très dense. On est 7 pour 3 places. J'ai plus les armes cette année que l'année dernière pour aller me battre pour le podium, c'est certain. Après, on ne peut jamais être sûr du résultat, on ne peut être jamais sûr de comment ça va terminer. Donc je suis content d'être maintenant dans ce niveau-là, plus de 80 mètres, pour me battre pour cette médaille-là.
Voilà, les Français engagés dans ce concours de lancer de marteau. Les Français engagés un petit peu dans toutes les disciplines, même si on sait qu'ils auraient pu être plus nombreux. On va pas revenir, on va pas créer de polémique, mon cher Aurélien. Mais alors du coup, comme les sélections ont été drastiques et qu'on sait que ceux qui sont là ont mérité leur place et ont fait réaliser des minima très exigeants, à quoi, mon cher Aurélien, peut-on s'attendre? À quoi peut-on rêver même?
Le but c'est que tous les Français soient au moins demi-finalistes. Ça c'est l'objectif, puisque pour se qualifier à ces mondiaux d'Eugene, l'objectif était d'être dans le top 16, top 20 mondial. Donc avec une place de demi-finaliste, voire de finaliste. On a déjà Quentin Bigot, on l'attend impatiemment. Il devrait valider un G à plus de 77,50 m pour lui, qui est très régulier à ces distances-là. Ça devrait passer. Et alors on n'a pas d'autres Français pour la session du matin ici à Eugene. Donc pour vous en France, France ce soir. Par contre, dans la nuit de vendredi à samedi, on attend Mehdi Belhadj en série du 3000 mètres stiple homme, qui lui est en très bonne forme. C'est pas un des athlètes français les plus connus, mais il monte en puissance. Pourquoi pas lui aussi le voir passer les séries? Normalement, ça devrait le faire. Et puis ensuite, on a la perche féminine avec Ninon Chapelle, ex-Ninon Guillaume Romarin, qui est marié avec Axel Chapelle, l'ancien perchiste d'ailleurs, qui avait été champion du monde junior ici en 2014. Donc ça résonne dans la famille Chapelle de venir sauter à Eugene. Et il y aura aussi Margot Chevrier, qui est double championne de France en titre, qui a porté son record personnel à 4,70 m à 5 petits centimètres du record de France. Et Margot Chevrier, elle a que 22 ans, la niçoise, et donc elle va tenter de se qualifier aussi pour sa première grande finale internationale, alors qu'on a vu Yann Chossinan, le lanceur de marteau dont je vous parlais il y a quelques minutes, manquer son dernier jet. Il terminera 8e de la première qualification. Ça va être très compliqué pour se qualifier en finale. Donc c'était au moins 77,50 m, ça il n'a pas réussi. Il n'y a pas 12 lanceurs qui réussissent ce jet à 77,50 m, d'autres pourront être repêchés. Ça sera donc compliqué pour Yann Chossinan. Pour résumer, dans la nuit prochaine, on aura donc Mehdi Belhadj, Ninon Chapelle, Margot Chevrier. Et pour ce qui est des étrangers, on aura notamment la finale du relais mixte 4x400 m, avec les adieux à la piste d'Alison Félix, l'américaine record woman du nombre de médailles en grand championnat. Elle a obtenu 18 médailles à 36 ans, Alison Félix, une légende, va donc dire adieu à son sport chez elle aux États-Unis.
Voilà, tout ça à suivre évidemment sur RMC avec Aurélien Tersin, notre envoyé spécial. Rappelle-nous les qualifs du marteau avec nos Français.
Alors Yann Chossinan termine 8e du groupe de qualification A avec un jet à 73,95 m, donc pas qualifié directement. Il faudra attendre le groupe B pour savoir s'il peut être repêché, mais a priori ce sera très compliqué. Et Quentin Bigot, pour lui ça devrait passer en toute logique. On l'a croisé hier dans les allées du campus universitaire de Eugene. Il est en forme, Quentin, ça devrait passer. Il attaque à 19h30 heure française son concours du marteau.
Évidemment, on suivra ça grâce à toi, Aurélien Tersin, notre envoyé spécial du côté de Eugene, dans l'Oregon, où se déroule ou commence aujourd'hui les championnats du monde d'athlétisme. Ça dure jusqu'au 24 juillet prochain. Merci beaucoup, Aurélien. À très vite sur l'antenne de RMC. Vous restez bien avec nous. L'Intégral Sport revient dans un instant pour la dernière ligne droite. Un invité exceptionnel dans quelques instants sur l'antenne, TJ Parker, le coach de l'ASVEL. Il fait du rab, figurez-vous. Pas de vacances pour le coach des récents champions de France. Ça bosse de l'autre côté de l'Atlantique. Ça bosse peut-être pour la suite de sa carrière, mais ça bosse surtout pour une prestigieuse franchise de NBA. TJ Parker, notre invité dans l'Intégral Sport dans un instant. Il va nous faire découvrir son expérience en Summer League. On vous explique tout dans un instant. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport. Simon Dutin.
18h47, c'est la dernière ligne droite de l'Intégral Sport. Dans un instant, place à l'After Tour autour de Christophe Cessieux et toute la Dream Team Vélo. Pierre-Yves Leroux, Jérôme Coppel, Cyril Guimard et les réactions des coureurs au micro d'Arnaud Souk. À 20h, c'est l'After Foot avec Nicolas Jamin. Mais pour l'instant, on va parler basket en accueillant TJ Parker, le coach de l'ASVEL, tout récent champion de France. Salut TJ, merci d'avoir accepté l'invitation d'RMC.
Bonjour et bonsoir pour vous, je crois. Bonsoir pour vous.
Oui, chez nous, ça commence à être bonsoir, en effet. 18h47, ouais. Effectivement. On était avec Aurélien Tersin aux États-Unis tout à l'heure. On a appris, évidemment, à s'adapter. TJ, je disais en introduction, on a d'autant plus de chances de vous avoir à l'antenne que vous n'êtes pas en vacances. Hein, vous continuez de bosser de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, racontez-nous ce que vous faites en ce moment.
Bah, je suis parti faire la Summer League avec Milwaukee. Donc, je suis arrivé le premier à Milwaukee et on a fait une sorte de préparation pour préparer l'équipe, que ce soit le côté offensif ou défensif pour la Summer League aux États-Unis. Donc, beaucoup de réunions avec les coachs, beaucoup d'échanges avec les joueurs, beaucoup de responsabilités de la part de coach Vin Baker pour moi de faire aussi le lien entre les joueurs et ce qui n'a pas été fait par rapport au plan de jeu, par rapport à toutes différentes choses. Ils me laissent beaucoup échanger avec eux. Donc, et après, c'est beaucoup de meetings où on prépare les entraînements, les préparations de matchs ensemble et beaucoup d'échanges.
Alors les Bucks de Milwaukee, hein, franchise championne NBA il y a un an, pour nos auditeurs qui connaîtraient peu ou pas la NBA, c'est la franchise dans laquelle évolue notamment Giannis Antetokounmpo, hein, qui est l'une des superstars de NBA. On précise que bon, les superstars ne disputent pas traditionnellement la Summer League, c'est plutôt, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais une compétition d'avant-saison qui permet justement aux franchises de préparer leurs plus jeunes joueurs à ce que va être les matchs dans la ligue, voir lesquels sont armés pour intégrer ce qu'on appelle les rosters, c'est-à-dire les effectifs qui vont disputer la saison. Alors je regardais un peu vos résultats. Victoire 100-89 hier soir face à Dallas, victoire face à Minnesota il y a deux jours, une défaite de deux points seulement, c'était mardi face à Boston, une victoire face à Brooklyn juste avant. Ils sont pas mal ces jeunes Bucks de TJ Parker, assistant coach.
Ouais, très bien, très belle équipe. Ça joue très bien au basket. Et un peu pour revenir à ce que vous venez de dire, c'est vrai que la Summer League, ça sert aussi à faire jouer les joueurs qui viennent se faire drafter, mais aussi pour compléter leur effectif. Donc c'est le moment, sur 4-5 matchs, de voir des joueurs, pas que dans leur franchise, mais dans toutes les franchises, parce qu'il y a toutes les franchises NBA qui sont là. Donc ça permet de voir un peu tout le monde. Et après, c'est vrai qu'on aurait pu être la seule équipe à être à 4 victoires, 0 défaites. On perd sur un panier à la dernière seconde. Un tir sur un pied de Matt Ryan qui était, bon, franchement, incroyable. Mais sinon, dans l'ensemble, on a produit du très bon basket.
Il y a trois Français, je crois, dans l'effectif des Bucks pour la Summer League. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire éventuellement lequel d'entre eux aurait une chance, le plus de potentiel pour intégrer ou pas l'effectif des Bucks pour la saison régulière?
Ah, difficile à dire. Entre Sylvain et Hugo qui ont joué, c'est vrai que les effectifs en Summer League, ils étaient plus de 12, 10, 11, on va dire. Et Sylvain, Evans et Hugo, on est dans un effectif quand même de 16 joueurs. Donc déjà, Evans, c'est vraiment compliqué pour jouer. Sylvain, il a la chance de jouer hier parce que Lucas Vildoza, ancien joueur de Baskonia, un très bon joueur, hein, argentin, s'est blessé. Donc il a la chance de jouer hier. Sinon, il n'aurait peut-être pas joué non plus. Et Hugo, c'est vrai que le système, il est un peu... C'est un peu bizarre avec les coachs. Bon, bien sûr, ça vient des dirigeants au-dessus. C'est, les temps de jeu sont calculés, tout est calculé. Donc, c'est pas facile. Pas facile pour Hugo parce qu'il fait des bonnes entrées. Et après, bah, il sort parce que le temps. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Moi, ça vient des coachs au-dessus et les temps de jeu sont donnés à certains joueurs.
Sylvain Francisco, du coup, et Hugo Besson, les deux des trois Français qui ont eu un petit peu de temps de jeu. Un petit mot sur le profil de chacun de ces deux joueurs, en tout cas, qui ont déjà eu leur minute et qui ont inscrit des points. Sylvain Francisco, Hugo Besson, leur poste, leur potentiel.
Bah, Hugo, hein, poste 2, bien sûr.
Arrière, donc, ouais, c'est ça, poste 2.
Un arrière, c'est ça, fort scoreur. C'est vrai que Hugo, là, il est utilisé un peu plus que sur le tir, alors que Hugo aussi a un très beau jeu de création derrière les pics. Il ne voit pas trop de pick and roll. Après, vrai, il a des très, très gros progrès à faire défensivement, même s'il fait des très bons efforts pendant la Summer League. Et sinon, c'est un profil très intéressant, mais je pense, je ne sais pas s'ils vont le garder pour la saison cette année ou l'envoyer en Europe. Ça, c'est encore une décision à prendre de leur part. Et puis bah, Sylvain Francisco, qu'on connaît, hein, qui a joué beaucoup aussi dans notre championnat en backlick et qui a fait une super saison à Manresa. Un meneur de capacité athlétique, vraiment grandiose, vraiment, vraiment très, très athlétique. Et beaucoup moins de temps de jeu, Sylvain, donc c'est vrai qu'il a un peu du mal quand même à s'exprimer.
Bon, et dans ces cas-là, le rôle d'un TJ Parker, c'est effectivement de leur expliquer, de gérer une forme de frustration. Bon, j'imagine qu'ils savent où ils mettent les pieds, ils savent que le management est impitoyable et qu'il y a des passes droits pour personne. Mais il doit y avoir un travail d'accompagnement humain également, outre le coaching purement sportif, j'ai envie de dire, non ?
Oui, ça me fait plaisir d'avoir des Français dans cet effectif parce que moi, ce que je leur dis, c'est clair, c'est au moins de toujours rester positif, de toujours avoir le bon langage corporel, parce que ça, c'est important, parce que toutes les franchises regardent, tous les GM regardent. Donc, la moindre des choses, le moindre détail, ils font attention. Donc, si tu joues 2, 3 ou 10 minutes, c'est pas grave, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. C'est vrai que c'est pas facile, parce que en tant que joueur, on a tous envie de jouer, mais après, il y a des choix qui sont faits par les dirigeants, et ça, on peut pas aider, mais c'est les accompagner aussi mentalement et rester positif, les encourager. ça soit même quand tu joues pas, il y a les entraînements le lendemain. Et là, il y a eu 3-3, 4-4. Des fois, ça peut être un peu agaçant parce qu'après, on ne joue pas. Et il faut être fort aussi pendant ces entraînements parce qu'il y a toujours quelqu'un qui regarde.
TJ Parker, le coach de l'ASVEL, tout récent champion de France, et l'invité de l'Intégral Sport. TJ qui fait du rap pendant les vacances. TJ Parker, assistant coach des prestigieux Milwaukee Bucks lors de la Summer League qui se déroule en ce moment à Las Vegas. TJ, est-ce que coacher un jour en université ou en NBA, c'est un rêve? Est-ce qu'il est réalisable?
Tout est réalisable qu'on a envie. On a toujours des objectifs. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours des objectifs depuis que je suis jeune. Donc, que ce soit en tant que joueur, bien sûr que je n'ai pas eu la carrière que je voulais. Mais c'est vrai qu'en tant que coach, maintenant, c'est vraiment une découverte et un plaisir que je prends depuis 10 ans. Et puis, bien sûr, on ne veut pas en rester. Toujours évoluer. Et c'est vrai que, bien sûr, d'évoluer peut-être, on ne sait pas, même en Europe, dans un autre club plus grand au rôle. Mais c'est vrai, de traverser l'Atlantique, c'est un rêve. Et puis pourquoi pas?
Pour devenir assistant coach des Bucks de Milwaukee, même lorsqu'on est champion de France, comment ça se passe? On contacte, on propose ses services, on attend qu'on vienne nous chercher. Comment on se retrouve assistant coach des Bucks de Milwaukee lorsqu'on coach sur un continent différent?
On me proposait de venir.
On est venu vous chercher.
Passer la Summer League avec eux. C'est bien pour eux d'échanger avec moi, parce que c'est pas le même basket, on va dire, en Euroleague ou européen avec le basket NBA. Et puis nous aussi, on peut découvrir des choses en regardant ce qu'ils font. Donc c'est bien pour les deux parties. Donc voilà, quoi. Après, c'est aussi une chance parce que moi, je connais bien le coach Bud, qui était coach Mike Budhauser, qui était aussi à San Antonio. Donc bien sûr, après, les connaissances que tu as aussi, ça peut aider à rentrer dans les effectifs de Summer League pendant l'été.
Et on imagine qu'en attendant, vous allez rentrer en France, effectivement, fort de cette expérience acquise et au contact d'une nouvelle approche, même si, évidemment, vous connaissez bien le basket américain. Et j'imagine que ça va vous servir pour la reprise avec l'ASVEL, avec des objectifs élevés, un recrutement prestigieux. On rappelle que vous accueillez Nando Docolo dans l'effectif la saison prochaine. C'est quoi le programme? Est-ce que vous comptez prendre quelques jours de vacances tout de même avant la saison prochaine?
Oui, quand même. Là, je finis dans 2 jours. Et ma famille m'a rejoint à Las Vegas. Et d'ailleurs, je vais partir 10 jours entre Los Angeles et San Diego. Et après, je rentrerai en France. Mais ces 10 jours-là, je vais en profiter pour comme le recrutement est quasiment terminé, de couper un peu le téléphone et profiter de la famille.
Objectif, champion de France et bien figuré en Euroleague, c'est ça?
On sait c'est quoi, de toute façon, les objectifs de Las Vegas, c'est toujours gagner des titres. Évidemment. Que ce soit, bien sûr, titre de champion de France, qu'on va défendre encore une fois. Et après, bien sûr, aussi, Leaders Cup, Coupe de France. On a un président qui a envie de tout gagner, quoi, sur le territoire français. Mais on sait que Monaco va être aussi très costaud. Et après, au niveau Euroleague, bien sûr, faire encore une fois, faire le mieux possible. On sait qu'une saison Euroleague, les championnats, c'est très long. On a été un peu pénalisé dernière par les blessures, alors qu'on a fait un très bon début. C'est vraiment le plus important pour nous quand on a un effectif comme l'ASVEL, de vraiment la santé est vraiment importante pour nous d'avoir une grosse saison en Euroleague.
Oui, avec un nombre de colo justement qui lui connaît bien l'Euroleague. TJ Parker, coach de l'ASVEL, tout récent champion de France et actuellement assistant coach des Bucks de Milwaukee en Summer League, était l'invité de l'Intégral Sport. Merci beaucoup TJ d'avoir accepté notre invitation sur RMC et bonne fin de mission. Merci. Aux États-Unis, bonnes vacances et bonne reprise de la saison. Nul doute qu'on aura l'occasion de se reparler très vite sur l'antenne de RMC. Merci beaucoup TJ et à bientôt. L'Intégral Sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Il va être temps de donner la main à l'équipe de l'After Talk. Je vous rappelle que le PSG s'est imposé 2-0 lors de son match de préparation, le premier de cette intersaison sous les ordres de Christophe Galtier. 2-0, but de Ramos sur penalty et de Gassama. Il est temps de redonner la main à la Dream Team Vélo pour l'After Tour. Mon cher Christophe, encore un Danois qui gagne.
Ah oui, ils n'en finissent plus de lever les bras en vainqueur sur les routes de ce Tour de France. 3e succès danois après ceux de Kort Nielsen et évidemment celui de Vingegaard. Aujourd'hui, c'est un ancien champion du monde, Mats Pedersen, qui s'impose à Saint-Etienne au terme d'une échappée. Oui, les baroudeurs ont eu raison des sprinteurs aujourd'hui. On va revenir sur le succès danois. On va revenir aussi, et on est un peu inquiet, sur les carences des coureurs français. Toujours toujours aucun succès d'étape et on s'approche de la fin. Y en aura-t-il une de victoire d'ici l'arrivée sur les Champs-Élysées dimanche prochain? Eh bien, on se posera la question et puis on s'intéressera à l'étape de demain avec l'arrivée à Mende au sommet de la côte de la Croix-Neuve. Pogacar va devoir attaquer. Ben oui, 2 minutes 22, ça se reprend pas comme ça tout seul. Il va falloir qu'il attaque. On en parle dans un instant et on va s'intéresser également à la chaleur qui pourrait jouer des siennes sur la fin de ce Tour de France. À tout de suite, l'After Tour, c'est jusqu'à 20h sur RMC.